Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 12 février 1932, la croisière jaune atteint Pékin. 3 années ont été nécessaires pour préparer la croisière jaune. À sa tête, Georges-Marie Hart, directeur général des usines Citroën, qui a porté la croisière noire 8 ans plus tôt. 2 convois d'auto-chenilles vont à la rencontre l'un de l'autre. Partant du Liban, le groupe Pamir, formé de 7 véhicules, emprunte l'antique route de la soie. Le groupe Chine progresse dans la direction opposée en traversant le désert de Gobi. Il se retrouve au-delà de l'Himalaya. Hart envoie des émissaires dans les pays traversés. Les négociations sont parfois délicates. Chiang Kai-shek impose ses conditions. Interdiction d'effectuer des relevés topographiques et des fouilles archéologiques. Contrôle des prises de vue. Obligation d'emmener une mission de savants chinois. Parti de Beyrouth, le groupe Pamir progresse à travers le croissant fertile de l'Arabie, sur la route de Bagdad. Tandis que les 7 véhicules avancent dans un décor désertique à la moyenne de 20 km par heure, un avion se pose à 100 mètres de la piste. Le pilote est le père Antoine Poidebar, un jésuite, pionnier de l'archéologie aérienne. Avec l'Afghanistan commence l'aventure. Les pistes sont peu sûres et les Ouzbeks sont en guerre dans le nord. Enfin, le verrou himalayen formé par la chaîne enneigée de l'Hindou Kush barre l'horizon. Le 16 mai 1931, Victor Point, jeune lieutenant de vaisseau qui dirige le groupe Chine, quitte Kalgan, où l'a rejoint le jésuite Pierre Teilhard de Chardin. 4 jours plus tard, il gagne le désert de Gobi. Aux conditions climatiques éprouvantes s'ajoute la tension psychologique entre Français et Chinois. La croisière jaune est soupçonnée de tracer une route d'invasion pour les troupes annamites françaises. Aux portes du Xinjiang, l'armée régulière chinoise est aux prises avec les montagnards musulmans révoltés contre le gouverneur maréchal Qing. Le 5 juillet, le groupe Chine campe sous les murs de Turfan, où le thermomètre marque 50 degrés. Kachgan, où doit s'opérer la liaison avec Hart, est à 1300 km. Le maréchal invite Victor Point à le rencontrer. King lui marchande sa liberté contre 3 véhicules radio destinés à lutter contre la rébellion. Sautant par une fenêtre, le lieutenant de vaisseau fonce compagnie à ses geôliers. Le groupe Pamir continue sa progression. Au-delà de Kaboul, la piste dégringole des montagnes aux reliefs sculptés par la glace vers des plaines déjà baignées par la mousson. Le 24 juin, les auto-chenilles sont aux portes de Srinagar, au Cachemire, à 1300 mètres d'altitude. Hart veut traverser le toit du monde. Aussi, il limite le convoi à 2 véhicules allégés et à 7 hommes, lui compris. Les autres véhicules et mécaniciens sont rapatriés en France. 150 porteurs et 50 de bêtes de somme sont loués. Le 2 juillet, sous des trombes d'eau, une première colonne s'ébranle. Elle est chargée de reconnaître et d'aménager les passages difficiles. La piste est abrupte, avec des pentes à 40% en certains endroits. Néanmoins, les auto-chenilles prennent le départ. C'est un calvaire. Ripage des véhicules sur leurs criques dans les virages serrés. Halage par câble sur les ponts au-dessus des torrents. Manœuvre acrobatique au treuil quand la piste cède sous le poids des chenilles. Le 27 août, Hart arrive au Xinjiang. Le 30 novembre, après avoir reçu 3 auto-chenilles dotées de postes TSF, King délivre un passeport collectif à l'expédition. La route de Pékin est ouverte, mais le froid est terrible par des températures oscillantes entre moins 20 et moins 30 degrés. Sous la morsure du blizzard, il faut réparer les pannes à répétition dont sont victimes les véhicules accusant la fatigue. Le 12 février 1932, Le groupe Chine stoppe devant la légation française de Pékin après 12 115 km. La croisière jaune est terminée. Après les honneurs officiels, le retour tourne à la tragédie. Hommes et voitures embarquent le 29 février pour l'Indochine via Shanghai. Une grippe retient Hart alité à Hong Kong. Le 13 mars, la fièvre monte. Le chef de l'expédition est terrassé 3 jours plus tard par une pneumonie foudroyante. André Citroën accorde à son ami et collaborateur de grandioses funérailles. 3 mois plus tard, Victor Point se suicide de dépit amoureux. La croisière jaune est un demi-succès. Les autochenilles n'effectuent pas leur jonction. Cependant, le périple est présenté en France comme une marche triomphale. Le 30 novembre 1932, le grand amphithéâtre de la Sorbonne est transformé en salle de cinéma pour la projection du film retraçant son épopée en présence du président de la République, Albert Lebrun. L'expédition n'apporte pas les retombées commerciales espérées. Elle n'ajoute rien d'essentiel au prestige de la chenille qui a déjà fait ses preuves dans les sables d'Afrique. Par contre, elle accroît le passif des usines Citroën et contribue à précipiter la faillite de l'industriel en 1934, au moment où, dans un ultime coup de génie, il lance sa fameuse traction avant. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour, trois livres qui a été préparée comme chaque semaine par Emmanuel. C'est Michel Delpech qui nous accompagne en chanson avec son premier succès. C'était en 1965 chez Lorette.
À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Lorette souriait, et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Lorette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette, quand on était fauché, elle payait pour nous. Plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Lorette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Lorette, on y retournera pour ne pas l'oublier, Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Lorette.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire Un jour, trois livres. Pour commencer, Ecce Homo de Gérard Mordia aux éditions Albin Michel. Ce roman est construit sur trois époques, trois personnages, trois pays, avec une seule et même énigme, l'image de Jésus. Nous passons ainsi de la France du XIVe siècle à l'Italie post-unitaire en passant par les États-Unis de Donald Trump. Le suaire de Turin est donc le personnage essentiel du roman, personnage en proie à tous les extrémismes. Il traverse les âges et relie Lucie, Henri et Thomas, trio amoureux en perpétuelle métamorphose. Le combat pour le conquérir se double d'un combat pour posséder le cœur de Lucie, objet d'une passion dont le linceul est à la fois l'enjeu et l'emblème. Et pour l'auteur, il s'agit de répondre à la question de Pilate dans l'Évangile, qu'est-ce que la vérité ? Ecce Homo de Gérard Mordia, c'est publié aux éditions Albin Michel. Un grand classique de la littérature nord-américaine, « Les raisins de la colère » de John Steinbeck, réédité par Gallimard. Voici donc la réédition de ce roman de la Grande Dépression aux États-Unis, récompensé par le prix Pulitzer en 1940. Nous nous retrouvons au cœur de l'Oklahoma dans les années 30. Les petits exploitants agricoles se font racheter de force leurs terres et se retrouvent aux abois. Et ils partent en direction de la Californie et ses grands besoins de main-d'œuvre agricole pour le coton et les oranges. Nous suivons une famille qui ira de désillusion en désillusion jusqu'à l'arrivée en Californie où le travail manque en raison d'un afflux trop important de main-d'œuvre. Les raisins de la colère de John Steinbeck, c'est chez Gallimard. Et pour terminer cette chronique, La faute d'Alessandro Piperno aux éditions Liana Levi. Fils unique d'un couple mal assorti, le narrateur navigue entre deux pôles inconciliables. Le père extraverti et irresponsable, représentant en machine à laver, et la mère sévère et impénétrable, qui avec son salaire de professeur fait face aux difficultés financières de la famille. À son adolescence, il va découvrir les liens jamais évoqués avec une famille juive, à l'occasion d'une terrible dispute qui finira par la mort de sa mère. Suicide, accident, geste violent du père, ce dernier doit être jugé et l'adolescent est confié à sa famille maternelle. Là, tout change, la façon de s'habiller, de se comporter et même son nom de famille. La faute, c'est signé Alessandro Piperno et c'est publié aux éditions Liana Levi. Merci à Emmanuel qui a préparé cette chronique littéraire. Merci à Thomas qui a réalisé cette émission. Et nous nous séparons en chanson avec toujours Michel Delpech. Nous écoutons un titre de 1974, Le Chasseur.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Oui, tous ces oiseaux qui étaient si bien.
Thank you.